Comment lutter contre le trafic d'œuvres d'art et de biens culturels? L'ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, vient d'être mis en examen, soupçonné d'avoir acheté des antiquités égyptiennes à la provenance douteuse afin de les exposer au Louvre à Abu Dhabi, des œuvres qui pourraient avoir été pillées lors du chaos du printemps arabe. De faux certificats auraient été réalisés. Bonjour Vincent Michel.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur à l'université de Poitiers, expert dans la lutte contre le trafic de biens culturels et à ce titre, vous intervenez notamment à l'École nationale des douanes. Alors il ne s'agit pas évidemment de préjuger de la culpabilité de ce monsieur Martinez. Ce que j'ai envie de savoir d'abord, c'est si ce qu'on lui reproche est fréquent. Est-ce que dans les musées, on trouve régulièrement comme ça des œuvres qui ont été volées?
Des choses qui ont été volées, non, mais ça peut arriver. Vous savez, c'est très difficile en fait de lutter contre le trafic des biens culturels. Il y a deux catégories en fait d'objets. Il y a les objets volés et les objets pillés. Alors c'est sûr que, comme vous dites, les objets volés ont une traçabilité parce que ça vient d'un inventaire, ça vient d'une collection, ça vient d'une collection privée ou publique. Et tôt ou tard, lorsqu'ils réapparaissent, effectivement, on retrouve en fait, eh bien, cette traçabilité. La grande difficulté, et c'est vrai qu'on est tous effectivement conscients de ce problème, c'est que face à un bien pillé, c'est beaucoup plus délicat.
Mais c'est quoi exactement la différence entre un bien volé et un bien pillé ? Volé, c'est dans un établissement qui existe, et pillé, c'est autre chose ?
Voilà, c'est ça. Un objet volé, c'est un objet qui est soustrait d'une collection publique ou privée. Voilà.
D'accord.
Donc il y a une traçabilité, il a été inventorié, il a été numéroté, il a été photographié. Le problème qui se pose maintenant, ce sont les objets pillés. C'est-à-dire, ce sont des objets qui proviennent de fouilles clandestines, qui sont soustraits comme ça du sol d'une façon totalement anonyme, et sur lequel on va gréver en fait une histoire, un pedigree, quelque chose qui est forcément crédible, parce que évidemment vous pouvez pas vendre objet pillé du Yémen, d'Irak ou de Syrie. Et c'est là où justement les trafiquants sont très opérationnels, puisqu'ils vont créer en fait une seconde histoire, hein, pour éviter justement, pour donner une origine légitime, apparemment respectable, hein, en rendant crédible en fait par exemple une acquisition ancienne avec tout un lot en fait de faux certificats, d'authenticité, assez facilement obtenu.
Comment ça se passe quand un musée achète une œuvre entre les pilleurs d'un côté et le musée de l'autre? J'imagine qu'il y a tout un tas d'intermédiaires. Il n'y a pas des vérifications régulièrement aux différents stades entre les experts, les maisons de vente, les choses comme ça?
Oui, heureusement, dans 99,9%, il n'y a aucun lien entre le trafiquant et le musée, fort heureusement. Mais parfois, bien évidemment, mais comme tout un chacun. Maintenant, vous savez, lutter contre le trafic, c'est aussi difficile que de lutter contre les autres trafics. Hein, et même si à la différence en fait du trafic de drogue, il existe un trafic illicite et un marché légal. Et vous voyez, la distinction entre le marché légal et le marché illégal est assez délicat en fait. Et les trafiquants vont tout faire pour justement faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir à l'origine en fait de ce bien, c'est-à-dire une origine illicite, un trafic.
Donc un musée peut se retrouver à son insu avec une œuvre pillée.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est de plus en plus rare. C'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des affaires qui sont assez symptomatiques des risques sont encourus justement par les musées, mais aussi par n'importe quel collectionneur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un marché éminemment lucratif.
Il pèse combien ce marché ?
Forcément, ça attire les trafiquants.
Il pèse combien ce marché ? On a une idée des sommes qui sont brassées chaque année ?
Alors, en fait, on ne sait pas, parce que c'est un marché qui est un marché souterrain, mais il est vraisemblablement à la hauteur du marché légal. Le marché légal, en 2017, on avait un chiffre d'affaires de 63,7 milliards de dollars. Donc, vous imaginez que, forcément, le marché illégal va forcément être à la proportion du marché légal. Il y a de l'argent à se faire. Mmh. C'est ça, en fait, le message qui est clair. Donc, qu'on trafique des stupes, qu'on trafique des armes, qu'on trafique des êtres humains, des médicaments, en fait, le moteur est le même. C'est l'argent.
Et est-ce que les réseaux sont les mêmes ? Est-ce que le trafic de biens culturels, ça intéresse la grande criminalité, les mafias, les trafics en drogue, ou est-ce que ce sont des réseaux à part ?
Alors, c'est toute la difficulté, en fait, de ce trafic, parce que ça intéresse de la petite délinquance aux groupes terroristes. C'est vraiment une criminalité polymorphe, hein, puisque vous pouvez très bien évidemment incriminer, c'est une vraie délinquance, les détecteurs de métaux qui s'adonnent le dimanche, mais comme Daesh, hein, dont on sait qu'il a une partie effectivement de son financement provenait du trafic illicite de biens culturels.
Et comment s'organise alors la lutte contre ce trafic ? Est-ce que il existe des structures, une coopération à l'échelle internationale ou ça se passe au niveau de chaque pays ?
Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience. Hein. C'est vrai qu'en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est récent. Hein, et que l'homme a besoin effectivement d'une prise de conscience. La prise de conscience, elle date de ces années 2001, vous voyez, on est vraiment, enfin 2011, pardon, avec les printemps arabes, puis l'accélérateur avec 2014-2015, avec ces prises de conscience que Daesh détruisait justement des antiquités, mais aussi trafiquait, et c'était les mêmes qui commettaient les attentats. Et
là, attendez, il y a une prise de conscience. Ce qui est récent, c'est la lutte ou c'est le pillage ?
Non, c'est la lutte.
Le pillage, il est vieux comme le monde, j'imagine.
Le pillage, il est vieux comme le monde. On peut remonter au butin de guerre, on peut remonter effectivement à la Révolution française, on peut remonter à beaucoup de conflits. Hein, voilà, l'idée, c'est justement de détruire, le patrimoine de l'autre. Et on voit exactement les mêmes choses, par exemple en Ukraine, où le patrimoine est détruit, pillé, déplacé.
Alors revenons-en à la lutte, hein, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Moi, j'aimerais savoir comment on fait pour lutter et avec quels moyens.
Alors, en France, on dispose en fait donc de d'organes étatiques bien particuliers. Donc, nous avons l'OCBC, l'organisation, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui est un organe bicéphale, donc gendarme et police. Et puis, nous avons les douanes, et qui est vraiment la police des marchandises, hein, qui contrôle à l'importation, l'exportation et à la circulation. Et puis, j'ai envie de dire, il y a le service des musées de France qui va vérifier systématiquement toutes les licences d'exportation. On protège notre patrimoine, mais maintenant, avec la nouvelle réglementation de 2016, on va contrôler ce qui rentre dans notre pays. Mmh. Et là, bien évidemment, il faut beaucoup plus de monde. Mais j'ai envie de dire, la sensibilisation, elle est totale. C'est vrai que on peut compter sur les archéologues, on peut compter comme d'alerte aussi. On peut compter sur les magistrats, hein, qu'on essaie de former de plus en plus. L'idée, c'est que on puisse dire, voilà, derrière une antiquité peut se cacher une infraction. Ne soyons pas complices. Faisons attention à cela.
Merci Vincent Michel, merci beaucoup pour vos explications. Je rappelle que vous êtes archéologue, professeur à l'université de Poitiers et donc expert dans la lutte contre le trafic de biens culturels. Vous étiez l'invité du 5-7.